9. Humeur changeante. L'élément sentimental commença l'hiver suivant à jouer un rôle important dans l'état d'âme de Sophie. La société ne l'intéressait plus, et cependant aucun travail ne l'absorbait. Ses cours eux-mêmes lui devenaient indifférents, et dans cette disposition d'esprit, elle s'abîmait dans ses réflexions, gémissait sur la destinée, et déplorait qu'elle ne lui eût pas donné ce qu'elle aurait désiré par-dessus tout. Elle ne prétendait plus scinder l'humanité en deux moitiés, un amour unique ne lui semblait plus devoir exercer une influence déterminante sur toute la vie, elle rêvait au contraire une union de l'homme et de la femme qui, par l'association de deux intelligences, aida le génie de chacun à porter ses véritables fruits. Son idéal fut le travail commun de deux êtres épris l'un de l'autre, et son rêve personnel fut celui de rencontrer cet autre moi. Mais jamais, c'était sûr, elle ne le rencontrerait en Suède, et cette idée lui faisait prendre en dégoût le pays où elle était venue pleine d'illusions et d'espérances. Cette idée de travail commun résultait de son ardent besoin d'intimité intellectuelle et de la souffrance intense que lui causait le sentiment de la solitude. Presque jamais elle ne pouvait travailler sans avoir dans son voisinage immédiat quelqu'un dont la sphère d'activité fût conforme à la sienne. Le travail par lui-même, la recherche abstraite d'une vérité scientifique, ne la satisfaisait pas. Il fallait qu'elle fût comprise, devinée, admirée, encouragée à chaque pas, à chaque nouvelle idée qui naissait en elle. Et cette enfance spirituelle ne devait pas appartenir à une humanité abstraite, elle voulait en enrichir quelqu'un dont elle recevrait un don analogue. Quoique mathématicienne, le but abstrait n'existait pas pour elle. Ses rêves, ses pensées et sa personnalité tout entière étaient trop passionnées. Mita Leffler disait souvent à ce sujet que ce besoin d'être comprise était chez Sophie une faiblesse de femme. Un homme de génie ne dépend jamais ainsi de la sympathie des autres. Elle répliquait alors en accumulant les exemples d'hommes qui avaient trouvé leurs meilleures inspirations dans l'amour d'une femme. La plupart, il est vrai, étaient des poètes, mais bien que les savants fussent plus rares à citer, Sophie ne restait jamais à court d'arguments. L'effet positif lui manquait-il, elle en fabriquait avec la plus grande habileté pour prouver que le sentiment de la solitude est, de toutes les souffrances, celle que les natures profondes ont le plus de peine à supporter, et que ce rêve de bonheur suprême, l'union complète avec un autre être, est une malédiction attachée à l'humanité, car en réalité, on reste toujours seul intérieurement. Je me rappelle surtout le printemps de 1886. Cette saison était toujours une épreuve pour Sophie. La fermentation, l'agitation qui règne dans la nature, l'expansion soudaine de ses forces productives, décrites avec tant de talent par Sophie dans Ve Victis, puis dans Vera Vorontsov, exerçaient une grande influence sur elle. Elle devenait inquiète, nerveuse, impatiente. Les nuits claires que j'aimais tant l'énervaient tout particulièrement. Cet éternel soleil, disait-elle, semble faire des promesses qu'il ne tient jamais. La terre reste aussi froide et le développement de la nature disparaît comme il est venu. L'été semble un mirage que l'on ne peut saisir. C'est pourquoi les nuits claires, qui précèdent de beaucoup les chaleurs de l'été, sont si irritantes. Elles promettent un bonheur qu'elles ne donnent pas. Il lui devenait impossible de travailler. Le travail par lui-même, la création scientifique, n'avait, disait-elle, aucune valeur, puisqu'il ne donnait pas le bonheur et ne faisait pas avancer l'humanité. C'était folie que de passer les années de sa jeunesse à étudier, c'était un malheur, surtout pour une femme, d'avoir des dons qui l'entraînaient dans une sphère où elle ne serait jamais heureuse. Dans cette disposition d'esprit, aussitôt le semestre terminé, elle se hâta de faire le voyage rapide, agréable et charmant, par Malmö, pour quitter la Suède. Elle se rendit à Paris et ne m'écrivit qu'une seule lettre de là. Contrairement à son habitude, elle était datée. 26 juin 142, boulevard d'Enfer. Chère Anne-Charlotte, je reçois à l'instant ta lettre. Je me reproche extrêmement de ne pas t'avoir encore écrit. Je reconnais volontiers de mon côté que j'ai été un brin jalouse. J'ai cru que tu ne te souciais pas de moi. Pour que ma lettre puisse partir par le courrier d'aujourd'hui, je me borne à ces quelques lignes pour te dire que tu as bien tort de croire que je vous oublie quand je suis loin. Jamais peut-être je n'ai autant senti combien je tenais à vous deux, ton frère et toi. Chaque fois que j'ai quelque plaisir, je pense involontairement à vous. Je m'amuse beaucoup à Paris, car tous les mathématiciens et même beaucoup de non-mathématiciens font grand cas de moi. Mais j'aspire terriblement à revoir un vilain frère et une vilaine sœur qui sont devenus indispensables à ma vie. Je ne puis partir d'ici avant le 5 juillet et ne viendrai à Christiania que pour le commencement du congrès des naturalistes. Peux-tu m'attendre à Copenhague pour voyager ensemble? Réponds-moi tout de suite. J'ai porté ton livre à Jonas Lee. Il parle de toi avec beaucoup d'amitié. Il m'a rendu ma visite, mais n'avait pas encore lu ton livre. Il croit aussi que tu as plus de talent pour le roman que pour le drame. Je verrai encore Jonas Lee avant mon départ. Je t'embrasse tendrement. J'aspire à te revoir, ma chère, chère Anne-Charlotte. Tout à toi, Sonia. Comme toujours, au dernier moment, elle ne put s'arracher de Paris, de sorte qu'elle ne débarqua à Christiania que dans les derniers jours du congrès des naturalistes. J'étais habitué au brusque revirement de son humeur, mais cette fois le contraste entre sa disposition d'esprit du moment et celle qu'il avait dominée toute l'année, et surtout pendant le printemps, fut plus frappant encore. Elle avait beaucoup vu Poincaré et d'autres grands mathématiciens à Paris. En causant avec eux, le désir lui était venu de s'occuper sérieusement d'un problème dont la solution pouvait lui donner une grande célébrité et lui faire obtenir le prix Bordin à l'Académie des sciences de Paris. Dès lors, la science donnait seule du prix à la vie. Tout le reste, bonheur personnel, amour, culte de la nature, rêve de l'imagination, était folie. La poursuite d'une vérité scientifique devenait le but le plus élevé que l'on pût se proposer, et un échange d'idées avec ses égaux, au point de vue intellectuel, était la plus belle chose du monde. La joie de produire la possédait, et une de ces périodes brillantes, où elle redevenait belle, spirituelle, pleine de vie et de gaieté, allait recommencer. Elle prit la route du Havre et débarqua à Christiania la nuit après 3 jours de traversée et un violent mal de mer. Mais infatigable, comme elle savait l'être quand elle était bien disposée, elle fit partie dès le lendemain matin, après quelques heures de sommeil, d'une excursion suivie d'une fête qui se prolongea fort à ravant dans la nuit. Beaucoup de toasts lui furent portés à cette occasion. Les personnalités les plus marquantes l'entourèrent, et comme toujours en pareil cas, elle fut si modestement aimable et d'une grâce si jeune qu'elle charma tout le monde. Nous fîmes ensemble un voyage de quelques jours et traversâmes le Telemarken pour visiter l'école supérieure populaire d'Ullmans, à laquelle Sophie prit un intérêt chaudement sympathique. Cette visite fut pour elle le sujet d'articles qu'elle écrivit ensuite avec un grand succès dans une revue russe, Le Messager du Nord. Nous fîmes aussi une ascension à pied, à partir de Siljord, la première course de montagne que Sophie eut jamais faite. Elle était hardie, vive et infatigable. Enchantée par la beauté de la nature, pleine de gaieté et d'entrain, troublée seulement, à certains moments, par l'aspect des vaches aux alentours d'un chalet, ou par des amoncellements de pierres qu'il fallait traverser et dont quelques-unes se détachaient sous ses pieds. Elle poussait alors de petits cris d'angoisse qui amusaient fort le reste de la société. Le sentiment de la nature, c'est-à-dire ce qu'elle ressentait par l'imagination, était fort vif en elle. Mais sa myopie l'empêchait de rien apercevoir des détails d'un paysage. Elle aurait été incapable de nommer les arbres ou les plantes devant lesquelles elle passait, de remarquer les produits de la terre ou la construction des maisons. Mais une coquetterie féminine et l'horreur de l'ornement traditionnel des bas bleus l'empêchaient de porter des lunettes. Si elle a, malgré tout, donné dans ses livres des descriptions du printemps qui ne sont pas seulement vraies par le sentiment et la couleur, mais encore par l'exactitude du détail purement matériel, c'est grâce à ses connaissances théoriques plutôt qu'à ses observations personnelles. Outre qu'elle avait fait de bonnes études en sciences naturelles, elle avait encore aidé son mari dans sa traduction du livre de Brehm et dans ses cours de géologie et de paléontologie. Son observation des petits phénomènes journaliers de la nature manquait cependant de finesse. Elle n'avait ni le sens du détail, ni la sûreté du goût. Le paysage le plus dépourvu de caractère devenait beau à ses yeux, selon sa disposition du moment, et le paysage le plus beau, comme lignes et couleurs, lui restait indifférent si elle était de mauvaise humeur. Il en était de même pour son appréciation de la beauté humaine. Le sens de la pureté des lignes, de l'harmonie des proportions et d'autres conditions de la beauté objective lui manquait complètement. Si les personnes lui inspiraient de la sympathie ou possédaient quelques-unes des qualités extérieures qu'elle admirait particulièrement, elles étaient belles et les autres laides. Un blond ou une blonde avait chance de lui plaire, un brun ou une brune rarement. Et à ce propos, je ne puis omettre le manque absolu de goût pour les arts dans cette nature si richement douée. Elle fit bien des séjours à Paris sans jamais aller au Louvre. La peinture, la sculpture, l'architecture n'eurent jamais aucun attrait pour elle. Et quant aux décorations d'une chambre ou aux côtés élégants de l'industrie, elle leur resta toujours indifférente. Cependant, la nature de la Norvège et les hommes que nous y rencontrâmes la charmèrent. Nous avions l'intention de continuer notre voyage en carriole au travers du Telemarken, par les montagnes de Hokkeli, pour descendre vers la côte de l'ouest, où nous comptions faire une visite à Alexandre Kielland à Jæderen. Mais bien qu'elle eût souvent rêvé à ce voyage de Norvège, et qu'elle en fût ravie, et malgré son vif désir de connaître Kielland, une voix l'appelait à laquelle il lui devenait impossible de résister. Et ainsi, à moitié route, sur un des bateaux à vapeur, dans un fjord qui pénétrait profondément dans le Telemarken, elle se décida subitement à retourner à Christiania et de là en Suède pour s'installer à la campagne et y travailler tranquillement. Elle me quitta, prit un autre bateau et retourna à Christiania. Je ne pus ni la dissuader ni la blâmer, car je savais par expérience qu'on ne résiste pas à cet appel. Tout devient indifférent. On devient sourd et aveugle pour ceux qui vous entourent, on n'entend que cette voix intérieure, plus forte que le bruit des cascades ou de l'ouragan sur la mer. Pour moi, le désappointement fut grand. Je continuais cependant mon voyage avec un compagnon de route rencontré par hasard. Je fis une visite à Kielland et revins par l'est assister à une fête à l'école supérieure populaire de Sagatun. Sophie eut joui de cette excursion autant que moi, si elle avait eu sa liberté intérieure. Bien des fois, je fus témoin de traits de ce genre. Au milieu de la conversation la plus animée, dans une excursion ou une soirée, occupée en apparence de son entourage, elle tombait soudain dans un profond silence, son regard devenait rêveur, ses réponses distraites. Aussitôt, elle prenait congé, et rien ne pouvait la retenir, ni prière, ni rendez-vous antérieur, ni égard pour les personnes présentes. J'étale un petit billet du printemps de la même année, très caractéristique sous ce rapport. Nous étions convenus de faire une excursion en voiture dans les environs de Stockholm avec deux autres personnes. Au dernier moment, elle s'excusa et m'écrivit l'explication suivante. « Chère Anne-Charlotte, ce matin je me suis éveillée avec le plus grand désir de m'amuser. Tout à coup m'arrive mon grand-père du côté maternel, le pédant allemand, c'est-à-dire l'astronome. Il examine les savantes dissertations que je m'étais promis d'étudier pendant les vacances de Pâques et me fait les plus sérieux reproches de perdre indignement mon temps. Sa parole sévère met en fuite ma pauvre grand-mère, la bohémienne. Me voilà donc assise à mon bureau, en robe de chambre et en pantoufles, enfoncée dans mes méditations et mes recherches mathématiques et sans la moindre envie de prendre part à votre excursion. Vous êtes si nombreux que vous vous amuserez bien sans moi. Et cela me fait espérer que vous me pardonnerez mon indigne désertion. Sonia. Il avait été convenu que nous nous retrouverions dans l'arrière-saison, dans le Jämtland, où Sophie s'était établie avec la famille de mon frère. Mais à peine y fus-je arrivé que Sophie, appelée par dépêche en Russie, partit pour y rejoindre sa sœur, gravement malade. Lorsqu'elle revint en septembre, elle ramena sa petite-fille, âgée de près de 8 ans. Pour la première fois, elle s'établit alors à Stockholm, dans un appartement particulier. Quoiqu'elle fût indifférente à toute espèce de confort domestique, elle était dégoûtée de la vie de la pension. Elle éprouvait un besoin absolu de tranquillité et de liberté quant à l'emploi de son temps et ne pouvait s'accommoder des petites dépendances qui résultent de la vie chez les autres. Elle pria donc ses amis de lui trouver un appartement à une femme de confiance qu'elle put charger du soin de son ménage et de celui de sa fille. Elle acheta quelques meubles, en fit venir d'autres de Russie et s'arrangea un chez elle qui garda toujours l'empreinte d'une installation provisoire. Le salon amené de Russie était caractéristique. Il venait de la maison de ses parents et avait toute la pompe de vieux meubles aristocratiques. Il avait autrefois garni un énorme salon et se composait d'un immense sofa qui occupait tout un côté du mur, d'un canapé faisant jadis partie d'un meuble décoratif destiné à être orné de plantes et placé au milieu d'une pièce, de grands fauteuils en acajou, profonds et richement sculptés, et recouverts, comme le reste du mobilier, de damas rouges foncés, très déchirés, avec des sièges défoncés et des ressorts brisés. Il fut toujours question de réparer ces fauteuils, mais on en resta là, en partie parce que, selon le point de vue russe de Sophie, il n'y avait rien d'extraordinaire à avoir des meubles déchirés dans son salon, en partie aussi parce que jamais elle ne s'attacha à Stockholm et n'eut jamais le sentiment que cette demeure fût autre chose qu'une station sur sa route. Elle ne voulait donc pas faire de dépenses inutiles. Cependant, quand elle était de bonne humeur, il lui prenait soudain la fantaisie d'orner sa chambre d'ouvrage de sa façon. Un jour, elle m'écrivit à ce sujet le billet suivant. « Anne-Charlotte, hier soir j'ai eu la preuve éclatante de la justesse des critiques qui prétendent que tu n'as Dieu que pour ce qui est laid et mauvais et pas du tout pour ce qui est beau et bon. Pas une tache, pas une éraflure sur mes vénérables vieux meubles, fussent-elles dissimulées sur 10 antimacassars, qui ne soient découvertes et dénoncées par toi. Mais le tapis qui recouvre mon rocking chair, beau, magnifique et tout neuf, s'est balancé toute la soirée, faisant de vains efforts pour attirer ton attention, tu ne l'as pas honoré d'un regard. Ta Sonia. 10. Ce qui fut et ce qui aurait pu être. À peine Sophie se fut-elle un peu installée dans son singulier appartement, qu'une fois encore, on l'appela en Russie. Elle partit en hiver, fit le voyage par mer jusqu'à Helsingfors, et de là en chemin de fer jusqu'à Pétersbourg, pour rejoindre sa sœur, toujours entre la vie et la mort. Sophie n'avait jamais peur dans ces cas-là, et ne reculait devant aucune difficulté. Tendrement dévouée à sa sœur, elle était disposée à tous les sacrifices. Sa petite fille resta sous ma garde pendant ces 2 mois d'absence. Je n'ai conservé qu'une seule lettre de cette époque et qui n'offre d'autre intérêt que de montrer combien cette année les fêtes de Noël furent tristes pour elle. Pétersbourg, 18 décembre 1886. Chère Anne-Charlotte, je ne suis arrivée que hier soir. Je me hâte aujourd'hui de décrire quelques lignes. Ma sœur est terriblement malade, bien que le médecin prétende qu'elle soit comparativement mieux que ces derniers jours. C'est vraiment la plus terrible des maladies, longue, pénible et consumante. Elle souffre sans cesse, ne peut ni dormir ni respirer sans difficulté. Je ne sais combien de temps je resterai ici. Je soupire après Foufi, sa fille, et mon travail. Le voyage jusqu'ici a été long et difficile. Ton amie dévouée, Sonia. Pendant les longues journées et les longues nuits qu'elle passa auprès du lit de sa sœur malade, bien des réflexions, bien des souvenirs du passé hantèrent son imagination. C'est alors qu'elle compara ce qui fut avec ce qui aurait pu être. En se rappelant les rêves enchanteurs avec lesquels sa sœur et elle étaient entrées dans la vie, jeunes, belles, richement douées toutes deux, elle songeait que la vie réelle avait été bien peu conforme aux illusions, aux mirages de leur imagination. Pour toutes deux, la vie avait certainement été mouvementée et riche en impressions de tout genre. Mais un sentiment amer d'espérance déçue couvait dans leur cœur. « Ah, combien tout aurait pu être différent, se disait Sophie, si toutes deux nous n'avions commis certaines erreurs capitales. » Cette pensée lui donna l'idée d'écrire 2 romans parallèles qui décriraient l'histoire des mêmes personnes de 2 façons opposées. On les verrait dans leur première jeunesse, avec toutes les chances en leur faveur, jusqu'au moment décisif de leur vie. L'un des romans montrerait alors les conséquences du choix qu'elles avaient fait. L'autre, ce qui aurait pu être si leur choix avait été contraire. Qui n'a pas un faux pas à regretter dans sa vie, était le raisonnement de Sophie. Et qui n'a plus d'une fois souhaité de pouvoir la recommencer. C'est ce désir, ce rêve, que je voudrais réaliser dans un roman si j'étais capable de l'écrire. Elle ne croyait pas alors posséder ce talent, et quand elle revint à Stockholm, toute pleine de son idée, elle chercha à me persuader d'écrire ce roman en collaboration avec elle. Je commençais précisément un nouveau roman intitulé « En dehors du mariage ». Ce devait être l'histoire des vieilles filles, de celles qui n'ont jamais eu l'occasion de fonder elles-mêmes une famille, de leurs idées sur le mariage et sur l'amour, des intérêts et des aspirations dont elles remplissent leur vie, en un mot, le roman des femmes qui, aux yeux du monde, n'en ont pas. Je comptais faire une sorte de pendant au roman de Garborg, Mannfolk, Le monde des hommes, où il décrit comment, dans notre société, vivent les célibataires, et décrire de mon côté comment vivent les femmes non mariées mais contemporaines. J'avais amassé de nombreux types et m'intéressais beaucoup à ce sujet. Mais voilà Sophie et son idée arrivée. Et si grande était son influence sur moi, si puissante sa force de persuasion, qu'elle me fit aussitôt abandonner mon propre enfant pour adopter le sien. Quelques lettres que j'écrivais à cette époque à une amie commune dépeignent notre enthousiasme à toutes deux pour cette œuvre. J'écrivis le 2 février 1887 « J'écris maintenant mon roman en dehors du mariage. Songe que je me sens absorbé à ce point que le monde extérieur, celui du moins qui n'a pas de rapport avec mon travail, n'existe plus pour moi. C'est un singulier état physique et psychique que celui où l'on se trouve en commençant quelque œuvre nouvelle. 1000 doutes vous assiègent. Cela aura-t-il quelque valeur? Suis-je capable surtout d'entreprendre une chose semblable? Etc. Et malgré tout, quelle joie, quel sentiment de richesse intérieure à posséder un monde mystérieux qui vous appartient en propre, où on se trouve vraiment chez soi, tandis que le monde extérieur ne vous paraît plus que l'empire des ombres. Et maintenant, par surcroît, voilà encore une autre idée. Sonia et moi avons une inspiration de génie. Nous allons écrire un grand drame en 2 soirées de 10 actes. L'idée est d'elle, mais c'est moi qui la mettrai en œuvre. Je composerai la pièce, j'écrirai les dialogues. L'idée me paraît vraiment très originale. Une des parties décrira ce qui fut, et la seconde, ce qui aurait pu être. Dans la première, tout sera malheur, car généralement, dans la vie, on fait ce que l'on peut pour empêcher les autres d'être heureux, au lieu d'aider à leur bonheur. Dans la seconde, les mêmes personnages vivront les uns pour les autres, en s'entraidant, et formeront une petite société idéale où ils trouveront le bonheur. Ne parlez de cela à personne. À dire vrai, je ne sais rien de plus que ce que je viens de vous dire sur l'idée de Sophie, car nous en avons parlé hier pour la première fois, et demain, elle doit me développer son plan afin que je juge s'il peut être traité au point de vue dramatique. Vous allez rire de me voir ainsi m'enthousiasmer à l'avance, mais c'est toujours ainsi pour moi. Dès que je vois le commencement d'une chose, j'en vois aussitôt la fin. Je me vois maintenant travaillant en collaboration avec Sophie à une œuvre gigantesque qui aura du succès au moins dans le monde entier, peut-être même dans un autre monde. Nous sommes comme 2 folles. Si nous pouvions réussir, cela nous réconcilierait avec l'univers. Sonia oublierait que la Suède est la terre des Philistins par excellence et ne se plaindrait plus d'y perdre ses plus belles journées, et moi j'oublierais, oui, j'oublierais tout ce qui me fait grogner. Vous allez dire que nous sommes 2 grands enfants. Oui, c'est ce que nous sommes. Dieu merci. Il existe heureusement un royaume préférable à tous ceux de la terre et dont nous avons la clé, le royaume de la fantaisie. Celui qui le veut en devient maître et tous les éléments y prennent la forme que l'on veut leur donner. Mais peut-être le plan de Sophie, destiné à un roman, ne vaudra-t-il rien pour un drame. Et quant à un roman, je ne pourrai l'écrire sur le plan d'autrui car la personnalité de l'auteur est beaucoup plus en jeu dans le roman que dans le drame. Le 10 février, j'écrivais, Sonia déborde de joie en voyant la tournure que prend notre vie. Elle prétend comprendre maintenant comment un homme peut toujours s'éprendre à nouveau de la mère de son enfant. Car je suis naturellement la mère, puisque c'est moi qui dois mettre l'enfant au monde. Et elle se montre si passionnée que la seule vue de ses regards brillants me fait plaisir. Je ne crois pas que deux femmes se soient jamais plus amusées ensemble, et je crois bien que nous sommes le premier exemple dans la littérature de deux collaboratrices. Jamais je n'ai éprouvé autant d'enthousiasme pour une idée que cette fois. Aussitôt que Sophie m'eut communiqué son plan, j'en fus frappé comme de la foudre. Oui, ce fut une véritable explosion. Elle me le raconta le jeudi 3, c'était un plan de roman dans un milieu russe. Après son départ, je passai la nuit dans l'obscurité, sur mon rocking chair, et avant de me mettre au lit, le drame était presque fait dans ma pensée. Vendredi, je causais avec Sophie, samedi, je commençais à écrire, et maintenant toute la première pièce, 5 actes avec prologue, est écrite de premier jet. Ainsi, en 5 jours, en y employant seulement un couple d'heures par jour, car on ne peut travailler longtemps avec cette furie. Jamais je n'ai rien fait aussi rapidement. Une idée mûrit dans ma pensée pendant des mois, quelquefois une année, avant de me mettre à l'écrire. Le 21 février, je disais, « Le plus amusant dans ce travail, c'est, comme vous avez pu le remarquer, que je l'admire tant. Cela résulte de la collaboration. L'idée étant de Sophie, je suis plus disposé à la croire géniale que si elle venait de moi. De son côté, elle admire ma part de travail, la vie, la mise en œuvre artistique. Rien de plus agréable que de faire admirer son travail sans y mettre le moindre amour-propre. Jamais comme maintenant je n'ai travaillé avec cette sécurité et cette absence de doute intérieur. Si notre drame devait tomber, je crois vraiment que ce serait pour nous le coup de la mort. Vous voulez savoir en quoi consiste la part de travail de Madame Kovalevski? Il est vrai qu'elle n'a pas écrit une réplique. Mais c'est elle qui a conçu le plan primitif et tracé le canevas de chaque acte. En outre, elle me donne bien des aperçus psychologiques sur la composition des caractères. Chaque jour, nous lisons ensemble ce que j'ai écrit. Elle fait ses observations et donne des idées nouvelles. Elle veut sans cesse entendre les mêmes choses, comme fait un enfant d'un conte favori, et croit en général qu'il n'existe pas de lecture plus intéressante. Le 9 mars, nous fîmes une première lecture à haute voix à quelques intimes. Jusque-là, notre joie et nos illusions avaient toujours été croissants. Je ne me rappelle pas avoir jamais vu Sophie si heureuse, si éclatante de bonheur. Elle avait de telles explosions d'allégresse qu'il lui fallait aller dans les bois pour y crier sa joie à la face du ciel. Tous les jours, notre travail terminé, nous allions faire de longues promenades dans le bois de l'île Jans, peu éloigné du quartier que nous habitions toutes deux, et là elle sautait par-dessus les pierres et les mottes de terre, me prenait dans ses bras pour danser, et criait bien haut que la vie était belle, l'avenir éblouissant et plein de promesses. Elle fondait les espérances les plus chimériques sur le succès de notre drame. Il ferait une marche triomphale à travers les capitales de l'Europe. Une idée aussi neuve et aussi originale devait frapper en littérature comme une révélation. Ce qui aurait pu être, ce rêve rêvé de tous, représenté avec la vie objective de la scène, captiverait chacun. Et le but même du drame, l'apothéose de l'amour comme la seule fin importante de la vie, ainsi que le tableau final, cette société idéale où chacun vivrait pour tous, comme on vit l'un pour l'autre, tout cela portait l'empreinte des sentiments les plus intimes et les plus profonds de Sophie. La première pièce aurait pour épigraphe « Que sert à l'homme de conquérir la terre s'il met son âme en péril ?» La seconde « Celui qui aura perdu sa vie la regagnera. » Mais dès la première lecture faite à notre public, notre œuvre entra dans une phase nouvelle. Jusque-là, nous l'avions plutôt vue comme elle aurait dû être, et non comme elle était effectivement. Maintenant, les défauts et les imperfections de ce travail, fiévreusement hâtif, nous sautèrent aux yeux. L'épreuve du remaniement commença. Pendant tout l'hiver, Sophie fut incapable de songer à son grand travail pour le prix Bortin, bien que le concours fût déjà ouvert. Mita Kleffler, qui sentait toujours une certaine responsabilité peser sur lui, et auquel l'importance de ce prix, au point de vue de l'avenir de Sophie, paraissait incontestable, se désespérait en la trouvant, à chacune de ses visites, installée dans son salon à faire de la tapisserie. Elle s'était passionnée pour la broderie et, semblable à l'héroïne du poème, Ingeborg, qui tissait dans la toile les exploits de son héros, elle brodait en laine et en soie ce drame qu'elle ne pouvait reproduire avec l'encre et la plume. Grâce au secours mécanique de son aiguille, ses pensées s'éclaircissaient dans son esprit et une scène se déroulait après l'autre devant elle. De mon côté, je faisais le même travail avec ma plume, et quand il se trouvait que plume et aiguille étaient d'accord, notre joie était assez vive pour contrebalancer les petites divergences auxquelles nous entraînait notre imagination. Ces divergences se présentèrent plus fréquemment en remaniant notre drame qu'au début, et le billet suivant de Sophie est une réponse à quelques dissentiments survenus entre nous dans un de ces moments de crise. « Mon pauvre enfant, il a été si souvent déjà entre la vie et la mort. Que lui est-il encore arrivé? As-tu été pleine de génie ou tout le contraire? Je crois presque que tu m'écris cela par pure méchanceté, afin que je fasse mon cours tout de travers aujourd'hui. Comment veux-tu que je pense à ma leçon quand je sais que notre pauvre petit traverse aujourd'hui une si terrible crise? Non, il est bon, sais-tu, d'être père une fois. On connaît alors ce que peuvent souffrir les pauvres hommes d'une méchante femme. Je voudrais bien rencontrer Strindberg et lui serrer la main. » J'écrivais à ce sujet dans une lettre du 1er avril. J'ai cherché à introduire un léger changement à ma façon de travailler en interdisant l'entrée de mon cabinet à Sophie jusqu'à l'entier achèvement par moi seul de la seconde pièce. Elle est au désespoir. Mais j'ai été trop dérangé et trop tiraillé par cette perpétuelle collaboration. J'en ai perdu le coup d'œil intérieur, la vie intime et commune avec mes personnages. Le besoin d'isolement, si profond chez moi, est étouffé par la trop puissante influence de Sonia. Ma personnalité est noyée dans la sienne, sans que la sienne trouve une expression individuelle plus complète. Voilà le côté défectueux d'une collaboration, même avec une nature comme celle de Sophie. Sous ce rapport, elle est très différente et ne comprend, avec toute son intelligence, qu'à condition d'avoir quelqu'un pour partager tous ses sentiments. Aussi, ce qu'elle produit en mathématiques, le fait-elle sous l'influence d'une autre personnalité. Même pour ses cours, ils ne sont vraiment bons que lorsque Gustave est présent. Sophie reconnaissait elle-même cette dépendance de son entourage et en plaisantait. Dans un billet à mon frère, elle écrit une fois « Cher monsieur le professeur, viendrez-vous demain à ma leçon? Ne venez pas si vous êtes fatigué, je tâcherai de la faire aussi bien que si vous étiez présent. » Le remaniement de notre pièce nous prit beaucoup plus de temps que la composition elle-même. Nous ne l'avions pas encore achevée lorsque nous nous séparâmes pour l'été. 11. Désillusion et tristesse. Il avait été question pour nous de passer l'été ensemble. La nouvelle raison sociale littéraire, Corvin Leffler, devait voyager à Berlin et à Paris pour faire de nombreuses relations théâtrales et littéraires qui, notre chef-d'œuvre terminé, devait servir à le lancer triomphalement dans le monde. Mais toutes ces illusions tombèrent les unes après les autres. Notre voyage était déjà fixé pour le milieu de mai, nous étions follement heureuses d'entrevoir un monde nouveau, plein d'intérêt pour nous, lorsqu'encore une fois de mauvaises nouvelles de Russie déjouèrent tous nos plans. La sœur de Sophie se trouvait de nouveau en danger et son mari devait précipitamment la quitter pour retourner à Paris. Sophie fut donc obligée de recommencer un triste voyage pour rejoindre sa sœur et de renoncer à toute pensée de plaisir et de distraction. Toutes ses lettres de cet été témoignent d'un profond découragement. Elle écrit « Ma sœur continue à être dans le même état que cet hiver. Elle souffre beaucoup, a l'air très malade et n'a pas la force de bouger. Je commence à craindre qu'il n'y ait plus d'espoir de guérison. Elle est extrêmement contente que je sois venue et me dit sans cesse qu'elle serait certainement morte si j'avais refusé de venir maintenant. Je suis si démontée aujourd'hui que je ne veux plus écrire. La seule chose qui m'amuse par la pensée est notre féerie et Ve Victis. Elle fait allusion à deux projets de travail en commun commencés au printemps. La féerie est de moi et devait s'intituler « Quand la mort ne sera plus ». Sophie, lorsque je lui communiquai mon plan, s'y attacha avec tant d'ardeur et continua si vivement à le développer dans son imagination qu'elle en a sa part de collaboration. Vae Victis lui appartenait à elle seule et devait être un long roman. L'idée et le plan étaient très originaux, mais elle ne se croyait pas encore capable d'écrire seule. Dans une de ses lettres suivantes, elle dit « Tu as la bonté d'assurer que je signifie quelque chose dans ta vie. Et cependant tu possèdes plus que moi, tu es incomparablement plus riche. Songe à ce que tu dois être pour moi, qui, sans toi, serais si isolé, si pauvre d'affection et d'amitié. » Et plus tard, « As-tu jamais remarqué qu'il y a des moments où tout semble se couvrir d'un voile noir, aussi bien pour soi que pour ses amis ? On ne reconnaît pas ce qu'on a de plus cher, et la fraise la plus savoureuse, quand on la prend dans la bouche, se change en sable. » Skogstomten, le rubézal suédois, menaçait les enfants qui entraient dans la forêt sans permission. Peut-être n'avons-nous pas demandé la permission, nous autres, d'être gais cet été. Et cependant, nous avions fameusement travaillé tout l'hiver. J'essaye même de travailler maintenant, et j'emploie tous mes loisirs à penser à mon travail de mathématiques et à étudier les traités de Poincaré. Je suis trop démontée, je ne suis pas assez heureuse pour écrire rien de littéraire. Tout dans la vie me paraît décoloré et peu intéressant. Dans de pareils moments, les mathématiques sont préférables. On est douteux qu'il existe un monde si complètement en dehors du « moi ». On a besoin de penser à des sujets impersonnels. Toi seulement, ma chère, ma précieuse, mon unique Anne-Charlotte, tu me restes également chère. Je ne puis te dire combien j'aspire à te revoir. Tu es ce que j'aime le plus, et notre amitié, au moins, doit durer autant que notre vie. Je ne sais ce qu'elle serait devenue, ma vie, sans toi. » Plus tard, en français, « Mon beau-frère s'est décidé maintenant à rester à Pétersbourg jusqu'à ce que ma sœur soit en état de le suivre à Paris. Je me suis donc sacrifié fort inutilement. Si je savais que tu fusses libre, je serais venu te rejoindre à Paris, quoiqu'à vrai dire toutes ces histoires m'aient complètement ôté le désir de m'amuser. Je suis plutôt disposé à m'établir n'importe où pour pouvoir travailler en paix. Je sens un grand besoin d'occupation, mathématiques ou littéraires, n'importe, pourvu que je puisse m'absorber dans mon travail et m'oublier moi-même ainsi que l'humanité tout entière. Si tu éprouvais le même désir de me rejoindre, que j'aurais de plaisir à te retrouver. Je serais heureuse de venir partout où tu voudrais. Mais si, comme il est probable, tu as déjà disposé de ton été, je resterai bien encore quelques semaines ici pour m'en retourner ensuite avec Fufi à Stockholm, où je m'établirai quelque part dans l'archipel pour travailler de toutes mes forces. Je ne veux plus faire un pas pour arranger quelque chose d'amusant. Tu sais à quel point je suis fataliste, et je crois avoir lu dans les étoiles que je ne puis rien me promettre de bon cet été. Il vaut mieux en prendre son parti et ne pas faire d'inutiles efforts. J'ai écrit hier le commencement de Vae Victis. Vraisemblablement, je ne l'achèverai jamais. Peut-être ce que j'ai écrit pourra-t-il te servir un jour parmi tes matériaux. Pour faire des mathématiques, il faut être plus installé que je ne le suis ici pour le moment. » Et dans une des lettres suivantes, écrite d'une des petites îles de l'archipel où elle s'était établie, elle dit « J'ai eu beaucoup de plaisir dans les derniers temps en Russie et j'ai même fait quelques connaissances intéressantes. Mais un vieux mathématicien, pédant et conservateur comme moi, ne peut jamais bien travailler que chez lui. C'est pourquoi je suis revenu à ma vieille Suède, à mes livres et à mes paperasses. » Et plus tard, du même endroit, « J'ai beaucoup pensé à notre premier-né, le double drame intitulé « La lutte pour le bonheur ». Mais à parler franchement, je commence à discerner dans le pauvre petit une foule considérable de défauts organiques, surtout en ce qui concerne la composition elle-même. Comme pour se jouer de moi, le sort m'a fait rencontrer cet été trois savants, rencontres dans son genre fort intéressantes. L'un d'eux, le moins doué selon moi, a déjà obtenu quelques succès. Le second, plein de talent sous certains rapports, ridiculement borné sous d'autres, a justement commencé sa lutte pour le bonheur. Quel en sera le résultat? C'est ce que je ne saurais prévoir encore. Le troisième, un type très curieux, est déjà brisé de corps et d'âme, et c'est un type digne d'être étudié par un romancier. L'histoire de ces trois hommes, dans sa simplicité, me semble beaucoup plus intéressante que tout ce que nous avons imaginé ensemble. Selon le désir de ton frère, j'ai pris un volume de Runeberg, Hanna, Nadiejda, etc., et je l'ai lu ici. Mais cela ne me plaît guère. Ces vers ont pour moi le même défaut que la création de Haydn. Le diable y manque trop, et sans un petit rayon de cette puissance supérieure, l'harmonie ne saurait exister en ce monde. Elle m'écrivit le même été une lettre amusante que je citerai pour donner un échantillon de la tournure humoristique de son esprit. Comme elle ne se distinguait pas précisément par un ordre remarquable dans ses papiers et ses affaires, je lui recommandais, en lui envoyant quelques lettres confidentielles, d'être prudente et de ne pas la laisser traîner. Elle m'écrit à ce sujet « Pauvre Anne Charlotte, il me semble que la crainte de voir tomber tes lettres entre des mains indignes tourne presque à la maladie chronique. Les symptômes en deviennent chaque jour plus alarmants et je commence à m'inquiéter sérieusement de toi. Il me semble cependant qu'une personne qui possède une écriture aussi illisible que la tienne pourrait à cet égard éprouver une certaine tranquillité. Je t'assure que, sauf les personnes directement intéressées à la question, il y en a peu qui auraient la patience de déchiffrer tes pattes de mouche. Pour ce qui est de ta dernière lettre, elle a naturellement été perdue à la poste. Quand je l'ai enfin retrouvée, l'enveloppe couverte des cachets du cabinet noir, je me suis empressé de la laisser ouverte sur ma table pour être examinée par mes bonnes et par toute la famille G. Ils ont tous été d'avis que la lettre était très bien écrite et contenait des choses intéressantes. Aujourd'hui, j'ai l'intention de faire une visite au professeur Montand pour lui parler de traduction polonaise. Je prendrai ta lettre et tâcherai de l'égarer dans son salon de réception. Je ne puis rien faire de plus pour travailler à ta célébrité. Ta dévouée Sonia. Quand nous nous revîmes en automne, nous commençâmes le dernier et définitif remaniement de notre double drame. Mais l'enthousiasme, la joie du travail, les illusions, tout était envolé. Ce fut une besogne purement mécanique. En novembre déjà, le drame fut imprimé et proposé en même temps à divers théâtres. Le reste de l'automne fut employé à la correction des épreuves. Notre œuvre parut vers Noël, fut malmenée par Virsen et le Stockholm Dagblad, et bientôt après refusée par les théâtres. Un billet de Sophie, en réponse à la nouvelle de ce revers, prouve qu'elle l'accepta assez légèrement. « Que vas-tu faire maintenant, mère cruelle et perfide? Couper en deux ses frères siamois, séparer ce que la nature a joint? Tu m'inspires une véritable terreur. Strindberg a raison par rapport aux femmes. Mais malgré tout, je viendrai te voir ce soir, monstre. » Effectivement, nous étions devenus un peu indifférentes à notre drame depuis qu'il était achevé. En cela, nous nous ressemblions, nous n'aimions que ceux qui n'étaient pas nés, et nous rêvions déjà d'autres travaux qui réussiraient mieux. Mais nous différions en ce que Sophie continuait à tenir de tout son cœur à la collaboration, tandis que pour moi, elle était morte, bien que je n'eusse pas le courage de l'avouer. Qui sait même si ce ne fut pas le besoin toujours croissant de me ressaisir, de redevenir seule maîtresse de mes pensées et de ma disposition d'esprit, qui, à mon insu, contribua à me faire prendre la résolution de passer l'hiver suivant en Italie. J'avais souvent parlé de ce voyage, et Sophie s'y était toujours opposée comme à une trahison envers notre amitié. Mais cette amitié, si précieuse d'une part, et qui me donnait tant de joie, commençait d'une autre à me peser par son excessive exigence. Je le dis pour expliquer la tragédie finale de la vie de Sophie. La nature idéale de son tempérament voulait arracher à la vie ce qu'elle ne donne et ne réalise que bien rarement, en amitié comme en amour, la fusion complète de deux âmes. Son amitié, et plus tard son amour, était tyrannique, parce qu'elle n'admettait ni sentiment, ni désir, ni pensée en dehors d'elle. Elle prétendait posséder la personne aimée de telle sorte que celle-ci n'eût presque plus d'individualité propre, et si en amour c'est presque impossible, au moins entre deux personnalités également développées, c'est plus difficile encore en amitié, la base de relations de ce genre étant la liberté individuelle de chacun. Ainsi s'explique peut-être le peu de satisfaction donnée par la maternité aux besoins de tendresse de Sophie. Un enfant n'aime pas autant qu'il se laisse aimer et ne saurait s'identifier aux intérêts d'autrui. Il reçoit toujours plus qu'il ne donne et Sophie exigeait beaucoup. Je ne veux pas dire qu'elle exigea plus qu'elle ne donnait elle-même, au contraire, car elle donnait beaucoup, mais elle voulait la réciproque et par-dessus tout, il fallait lui faire comprendre qu'elle avait autant de valeur aux yeux de ses amis que ceux-ci en avaient pour elle. Cet automne apporta à Sophie plus que des déceptions littéraires. Elle eut encore une grande et amère douleur à supporter. Cette sœur pour laquelle si souvent elle avait traversé la mer afin de ne pas lui manquer au dernier moment avait été transportée à Paris pour y subir une opération. Sophie était alors retenue par ses cours à Stockholm, mais au risque de perdre sa position, elle serait aussitôt partie si on l'avait appelée. On lui assura que l'opération serait sans danger et qu'elle offrait tout espoir de guérison. Le succès de l'opération fut même annoncé et elle reprenait courage lorsqu'un télégramme lui apporta soudain la nouvelle de la mort d'Aniuta. Une inflammation des poumons s'était déclarée et dans l'état de faiblesse où se trouvait la malade, celle-ci avait promptement succombé. Ainsi que Sophie l'a raconté dans ses souvenirs, elle avait toujours tendrement aimé sa sœur, et à la douleur de l'avoir à jamais perdue, et de n'avoir pu assister à ses derniers moments, se mêlait encore d'amers regrets sur le triste sort de cette Aniuta, jadis si belle et si admirée. Dévorée par une longue et douloureuse maladie, déçue dans toutes ses espérances, malheureuse dans sa vie intime, arrêtée dans son développement artistique, elle n'avait eu, pour terme à tant de souffrance, que l'inexorable mort dans toute la force de l'âge. La douleur de Sophie s'exagérait encore par l'habitude de généraliser. Le malheur qui la frappait, ou qui frappait ceux qu'elle aimait, devenait le malheur de l'humanité. Elle ne souffrait pas seulement de sa propre peine, mais de celle de tous. En perdant sa sœur, elle perdait aussi le dernier lien qui la rattachait à sa vie d'enfance. « Personne ne se souviendra plus de moi comme de la petite Sonia, » disait-elle. « Pour vous tous, je suis Madame Kovalevski, une savante. Pour personne, je ne suis plus l'enfant d'autrefois timide, réservée, renfermée en elle-même. » Avec l'empire qu'elle savait exercer sur elle-même et sa faculté de cacher ses sentiments réels, Sophie dissimula sa douleur aux yeux du monde. Elle ne porta pas le deuil, sa sœur ayant eu l'horreur du noir comme elle. La pleurer ainsi lui semblait d'ailleurs une fausse convention, mais le déchirement de son âme se révélait par une extrême nervosité. Elle fondait en larmes pour la moindre bagatelle, soit qu'on lui eût marché sur le pied ou déchiré sa robe, et éclatait en paroles violentes pour la plus insignifiante contrariété. En s'analysant, comme elle le faisait toujours, elle disait « Cette grande douleur que je cherche à dominer éclate au dehors par de puériles irritations. » C'est la tendance générale de la vie de transformer tout en petite misère et de ne jamais nous accorder la consolation d'un sentiment profond que l'on ne veut partager avec personne. Elle espérait que sa sœur lui apparaîtrait d'une façon quelconque. Toute sa vie, elle conserva la croyance au songe dont parle son amie de jeunesse, ainsi que, sous d'autres formes, aux pressentiments et aux révélations. Elle avait toujours su à l'avance quand elle serait heureuse ou malheureuse. 1887 devait lui donner une grande joie et une grande douleur, elle le savait, et maintenant déjà elle disait que 1888 serait l'année la plus heureuse de sa vie et 1890 la plus amère. Quant à 1891, elle devait lui apporter une lumière nouvelle. Cette lumière fut la mort. Des rêves pénibles la tourmentaient toujours quand un de ceux qu'elle aimait souffrait ou était menacé d'une souffrance. La nuit qui précéda la mort de sa sœur, elle eut un affreux cauchemar, ce qui l'étonna parce que les nouvelles étaient bonnes. Mais quand la nouvelle de la mort arriva, elle prétendit qu'elle aurait dû y être préparée. Cependant, jamais elle n'eut d'apparition comme elle l'avait espéré.